Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
La famille est donc, si l'on veut, le premier modèle des sociétés politiques. Le chef est l'image du père, le peuple est l'image des enfants, et tous étant nés égaux et libres, n'aliènent leur liberté que pour leur utilité. Toute la différence, c'est que dans la famille, l'amour du père pour ses enfants le paye des soins qu'il leur rend, et que dans l'État, le plaisir de commander supplée à cet amour que le chef n'a pas pour ses peuples.
Je suis cet après-midi au Café citoyen d'Auger-Saint-Vincent pour une après-midi autour de la thématique des libertés. Je rencontre Francis Teller, coprésident de l'association Dans le ventre, dans la baleine. Bonjour.
Bonjour.
Vous pouvez vous présenter et me dire ce que c'est que cette association ?
C'est une jeune association qui gère un tiers-lieu culturel dans le Loir-et-Cher, organise des journées de réflexion, des ateliers culinaires, des ateliers de peinture, de calligraphie.
Très varié.
Voilà. Mmh. Donc il y a vraiment différentes approches culturelles. Et l'année dernière, décision a été prise de décentraliser éventuellement des rencontres. Connaissant Marie-Catherine et Alain, voilà, on s'est dit que ce serait intéressant de proposer quelque chose ici. D'autant plus que j'avais découvert le Café citoyen l'été dernier et que un lien s'est créé avec Fabrice Lemaire. De manière naturelle, on s'est dit pourquoi pas au Café citoyen, ça permet de réunir un peu le réseau d'Alain Bron et Marie-Catherine Conti qui connaissent pas mal de monde dans la région et puis aussi grâce aux associations dans lesquelles ils sont, donc l'atelier de l'art et
l'atelier
le festival L'Art en Chemin. Donc voilà, c'est un partenariat entre tout ce petit monde et en fait le thème est celui qui a été choisi par le monde de la baleine en 2023. Donc il n'y a rien d'original, hein, c'est celui de la liberté. Et donc on a essayé de voir ce qu'on pouvait proposer autour de cette thématique-là.
Et donc vous organisez des rencontres un petit peu partout en France ?
Alors c'est la première.
Autour de cette thématique ?
Donc à Varey, du coup dans le Loir-et-Cher, il y a cette année une journée de réflexion de prévue sur cette thématique-là. Et ici, donc cet après-midi, c'est plus une approche sociologique, philosophique.
Littéraire aussi.
Littéraire aussi, avec les lectures de Marie-Catherine. Et puis un aspect aussi plus convivial, on a voulu finalement un peu mixer le côté un peu réflexif, intellectuel autour de cette question avec des chercheurs. L'idée ici, qui est originale par rapport à ce qu'on proposait jusqu'à maintenant, c'est de proposer un temps de réflexion l'après-midi et de proposer un temps plus grand public avec une causerie le soir par Alain Bron autour de la soupe médiévale.
Et au gel danois.
Au gel danois. Il y a cette dimension-là, de se retrouver autour d'une soupe et puis de prendre un temps pour réfléchir.
Très bien, merci beaucoup.
Dans la folie de l'obéissance d'être en vie, j'accuse l'infinie gourmandise jubilatoire de mon cerveau de raconter l'invisible qui vit en moi.
Je suis maintenant avec Annick Ohayon, qui est historienne de la psychologie et de la psychanalyse. C'est un beau titre.
En fait, pour dire les choses plus simplement, ce serait plutôt sur l'histoire des sciences de l'homme, des sciences sociales et la manière dont je vais l'aborder. Ce sujet qui est un vaste sujet philosophique, la liberté. On commence toujours la première disserte de philosophie autour de choses comme ça. Eh ben, c'est pas du tout ça. Justement, c'est d'essayer de montrer comment ces sciences de l'homme qui sont nées au début du XXe siècle ont essayé de se poser cette question du rapport qui existe entre un certain type de société et un certain type de psychisme, de structure psychologique des individus qui vivent dans cette société. Et donc aussi, quel type de société va provoquer quel type de pathologie mentale ou de pathologie de la liberté. Voilà.
Très bien. Qu'est-ce que vous pensez de la société d'aujourd'hui, du coup ? Parce que là, franchement...
Je pense qu'elle est d'abord... elle induit de la dépression, ça c'est absolument certain.
On est un des plus grands consommateurs d'antidépresseurs, elle induit
des addictions. Et beaucoup d'anxiété. Des anxiétés de tous ordres parce que, en fait...
Dont l'éco-anxiété, dont on parle beaucoup aussi.
Oui, et en plus des anxiétés générationnelles. Je veux dire, avoir quand même pour l'instant toute une catégorie d'étudiants qui souffrent de pathologies justement de ce type-là.
Ça, c'est dingue.
C'est positivement incroyable. Mmh. Moi, je suis de la génération du baby-boom. Mmh. Hein, et donc, pour nous, l'avenir était ouvert. Finalement.
On était heureux quand on était étudiant.
Et c'est pour
en fait,
ça qu'on s'est bien amusé dans les années 70, c'est que maintenant, on a la gueule de bois et on se sent très, bon, pas culpabilisé, mais responsable
du monde d'aujourd'hui.
Du monde d'aujourd'hui et de celui qu'on laisse à nos enfants.
Ok, merci.
Voilà. J'ai refusé. cet enfermement pénitentiaire dans ma propre cellule corporelle pour rester libre dans mon imaginaire.
Je suis maintenant avec Sylvain Ohaillon, donc qui est le mari d'Annick, psychosociologue, consultant. Vous allez parler de quelle liberté dans l'entreprise, de l'horloge à l'ordinateur. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà ?
Ça ne va pas être simple, parce que moi je parle à partir d'une pratique, c'est-à-dire quelques décennies dans les entreprises, en France et à l'étranger, et donc où j'ai effectivement rencontré certains types de salariés, de dirigeants, où j'ai essayé d'aider par la formation, par le conseil, avoir un peu plus de liberté en ayant un peu plus de connaissances et également un peu plus de capacité de discernement, d'analyse. Voilà, c'est ça un peu le lien entre liberté aujourd'hui dans l'entreprise et c'est cette capacité qu'on a de s'y repérer, de comprendre ce qui se passe, etc. Et donc je pars de l'hypothèse que la liberté dans l'entreprise dépend de deux facteurs. C'est-à-dire elle dépend du moment historique dans lequel on est. Donc je vais balayer 18e, 19e, 20e, 21e siècle, 22e, 23e siècle, etc. Et puis également, ça dépend des modes de production. C'est-à-dire comment on travaille, qu'est-ce qu'on fait. Petite usine, sous-traitance, Uber, etc. Donc en fonction de ces deux, le moment, et puis on peut dire l'espace, on ne va pas avoir le même type de liberté. Donc, et la liberté, c'est aussi le pouvoir qu'on a d'agir ou pas. Voilà.
Donc, sein de l'entreprise.
Hein. Au sein de l'entreprise.
Quels que soient les patrons,
voilà,
etc. Ouais.
Voilà. Et montrant aussi qu'en fonction du moment et en fonction de l'entreprise, on a comme des modes, comme des choses qui vont effectivement glisser de l'entreprise à la famille et à la société. C'est-à-dire, depuis 10-20 ans, avec le management, etc., on parle de gérer son budget, on parle de négocier avec sa femme et ses enfants, etc., etc. Et donc,
un vocabulaire qui appartient à l'entreprise.
Et qui déborde l'entreprise complètement. Et donc, je vais arriver à quelque chose qui est de rappeler la période rurale, artisanale, où le patron était le propriétaire et tous les autres obéissaient. Et puis dans la famille, on avait le rang qu'on avait en fonction de l'aînesse ou du rang dans la famille. Voilà. Mais après, on arrive dans les grosses entreprises bureaucratiques, technocratiques, EDF, les ministères, etc., où ça grossit. Et là, on va avoir plus que la position du capital qui va être la légitimité du pouvoir, on va avoir des savoirs. Pourquoi ? Parce qu'il y a des techniques nouvelles, l'électricité, ça. Et pour arriver au 21e, 21e siècle avec le boom de l'électronique, de la cybernétique, de l'informatique, etc. Et on va passer du modèle de l'horloge qui était associé à l'ère industrielle, à travail à la chaîne, etc. Chaplin dans les temps modernes, avec les rouages, etc. Et jusqu'à maintenant où effectivement on a quelque chose qui est complexe, multiforme, avec des frontières difficiles entre le dedans et le dehors, savoir si on est sous-traitant ou pas, etc. et tout, et qui devient un véritable capharnaüm, un labyrinthe total de modalités de travail et donc de zones de liberté, c'est-à-dire il y a des moments.
Il y a des zones de liberté aujourd'hui en entreprise.
Par exemple, effectivement, il y a des logiques multiples. Par exemple, on peut dire aujourd'hui pour la retraite que la logique de l'État, c'est une logique financière et comptable. Voilà. Elle se heurte à une logique populaire, sentimentale, du travail physique, difficile. Et on ne se comprend pas.
Voilà.
Et il y a comme ça des logiques. Par exemple, dans l'entreprise, le financier va vouloir effectivement que ses comptes soient bien ficelés, etc. Le commercial, il va vouloir dépenser pour de la publicité et ça va se heurter, quoi. Et donc, les managers, les chefs, etc., vont vouloir trouver des compromis, trouver des liens. Et c'est vrai qu'à ces endroits-là, où personne ne peut décider, il y a des zones de liberté. Voilà. Et aussi, il y a des zones de liberté dans le fait qu'on peut savoir où on est, on peut pouvoir analyser un peu les rapports de pouvoir, les rapports de travail, et pouvoir effectivement, quelque part, proposer sa valeur, proposer ce qu'on sait faire. Et c'est vrai, ce qu'on sait faire est éphémère, parce que ça dépend des modes. On a vu qu'avec l'informatique, les dactylos ont disparu, que les sténodactylos aussi, et plein d'autres métiers ont disparu, continuent de disparaître. Il y a d'autres métiers qui naissent aussi, mais qui ne sont pas les mêmes, il faut être beaucoup plus compétent. Et donc, on a quelque chose qui fait qu'on passe effectivement du modèle de l'horloge au modèle de l'ordinateur. Et oui, on parle par exemple du logiciel au lieu de parler de la pensée.
Oui, mais justement, l'omniprésence de l'ordinateur, en fait, absolument partout, oui. Ça crée une dépendance énorme, en fait, de l'humain à la machine.
Absolument.
Où est la liberté là-dedans, en fait, hein.
La liberté vient de quelque chose qui est assez pernicieux, c'est qu'on n'oblige pas les gens à utiliser l'ordinateur.
Mais
voilà, regardez avec le chat GPT là, qui fait effectivement les discours à votre place, qui les fait bien, qui peut le faire à la place des journalistes. C'est de dire, vous avez des petits commerces, etc., au lieu de faire votre menu tous les jours, etc., avec des belles phrases, ou au lieu de faire vos définitions, vos présentations, on va vous les faire, pour pas très cher, et vous allez voir, ça va être très bien. Le gars va dire, mais oui, ça va me faire gagner du temps.
Ben, c'est un peu la même chose, le temps.
Et après, ouais. il va être dépendant.
Ben, plus GPS, c'est rapide, mieux c'est, aussi, en fait, c'est le problème.
Plus c'est rapide, plus ça me fait gagner, etc., même si on perd un peu de sous et un peu de temps au début. Et donc, la machine est pernicieuse. Bien sûr, on n'est pas tous à égalité. Il y a des laboratoires dans la Silicon Valley, etc., qui bossent nuit et jour pour savoir ce que veulent les jeunes. Quand on dit les jeunes, par exemple, sont à l'aise avec les smartphones, avec les ordinateurs, c'est qu'ils ont été testés sur eux.
Ouais.
Et effectivement, ça rejette les vieux très très loin. Et qui demandent à leurs enfants et leurs petits-enfants.
Il y a des vieux qui arrivent à se débrouiller quand même.
Il y en a qui arrivent à se débrouiller, mais il faut qu'ils s'accrochent. Donc voilà un peu cette évolution, c'est-à-dire que la liberté en tant que telle, c'est difficile à définir, mais si on la situe dans le temps et dans des lieux de travail, en fonction effectivement du type de structure pyramidale ou plus en réseau, etc., on voit là où on peut, là où on ne peut pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de liberté à 100% ou de non-liberté à 100%, ce n'est pas possible.
On est d'accord. Merci voilà. Sylvain.
Merci.
L'écriture est mon arme secrète. J'adore appuyer sur la gâchette, balancer des munitions pour faire péter le son et me faire entendre.
Je suis avec Romain Hetz. Vous étiez en train de réagir par rapport à ce que vous avez entendu cet après-midi, c'est ça ? Vous étiez en débat ?
Oui, tout à fait. Nous étions en train de débattre de l'histoire des termes qui commençait avec le servage, l'esclavage et la citoyenneté pour le propulser sur la question de l'entreprise et de ce qui pouvait être vécu dans le monde de l'entreprise. Et donc par rapport à cela, nous étions en train de discuter qu'on retrouve des éléments historiques dans ce qui se passe à l'heure actuelle dans la hiérarchie de l'entrepreneuriat avec ces questions extraordinairement complexes où la subordination à l'heure actuelle était quelque chose qui existait, puisqu'il y a des responsables, des managers, des dirigeants d'entreprise qui n'utilisent plus le terme de subordination, mais vont plutôt utiliser un terme de collaboration, alors que la réalité reste l'obligation pour le salarié, le collaborateur, de suivre la direction stratégique de l'entreprise. Et s'il ne le fait pas, il est bouté hors de l'entreprise.
Donc il y a toujours une subordination, mais très peu une collaboration, c'est
exactement.
Bien ça.
Donc, derrière les mots, en réalité, peuvent se cacher des réalités qu'il ne faut quand même pas omettre. Mais ça, c'était un premier point. Un autre point que nous étions en train d'aborder, que je trouvais extrêmement riche, c'était le fait que, à l'heure actuelle, avec le système médiatique, de l'information, des réseaux sociaux, etc., tout le monde, à commencer par les dirigeants, les salariés, les collaborateurs, perdait de leur concentration. Et donc, en perdant de la concentration, perdait une forme de réflexion, une réflexion qui permettait d'être libre. Et c'était la réflexion et aussi une forme de connaissance aussi qui emmène vers une liberté qu'il n'y a plus quand on n'est pas concentré. En résumé, on ne peut plus faire des mails de 15 lignes, de 30 lignes avec un véritable raisonnement. Il faut plus qu'aller directement, il faut prémâcher les choses. Et à force de prémâcher, on tombe parfois dans des formes de simplification et de simplisme qui, à l'heure actuelle, sont à l'opposé d'une construction quand on veut collaborer dans l'entreprise. Parce que la collaboration nécessite parfois des débats, nécessite de s'asseoir l'un avec l'autre, de construire ensemble, et la construction ne se fait pas avec soit du populisme, soit de la simplification à outrance. Et voilà. Donc c'était des regrets, mais des regrets qui sont fondés sur une observation du monde actuel qui, en réalité, avec une avalanche d'informations, nous fait reculer sur le plan de la liberté. Liberté de réfléchir.
Ok, ben merci beaucoup pour votre intervention.
Je suis libre dans ma tête, et ce souffle qui porte la vie, je l'ai en moi, et dans le silence du fond de mon corps, je pousse ce cri.
C'était Anne-Laure pour RVM. J'étais au Café Citoyen d'Auger-Saint-Vincent pour une après-midi autour de la thématique des libertés organisée par l'Atelier des Arts, l'Art en Chemin et le Ventre de la Baleine. À bientôt sur RVM, la radio qui vous écoute.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.